L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
On vous souhaite un sapristi bon lundi. C'est le soleil actuellement. On est autour de quoi? 6-7 degrés. 6, précisément, dans le secteur de l'aéroport international Jean Lesage. C'est ce qu'on nous mentionne pour aujourd'hui. Du soleil maximum de 14. Tout ça va fondre. Tout ce qui reste de neige sale va fondre. Minimum de plus 4 degrés. Pour ce qui est de mardi, ce sera de la pluie intermittente maximum de 8. Et mercredi, ce sera de la pluie intermittente maximum de 7. Mon nom, c'est Marceau. Je suis encore un peu grippé, mais les amis, je vais m'en sortir. Ne vous inquiétez pas. C'est une grippe d'homme, oui, mais j'ai pris un peu d'alcool pour tuer ça en fin de semaine. Fait que je me sens déjà mieux que vendredi. Parlant de vendredi, j'ai dit bye-bye à Audrey Pinchot qui s'en allait vivre une expérience particulière, une expérience que moi j'ai vécue l'an passé, que j'avais adoré, qui m'avait fait freaker un peu au départ et par la suite, somme toute, après 3 jours de cette activité-là qu'elle va vous parler dans les prochaines minutes, je me sentais beaucoup mieux qu'avant. Et il y a eu une petite transformation. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, ma transformation, mais l'important, c'est ma vie à moi, comment je me sens. Mais ça a été le fun pour moi. Salut Audrey Pinchot.
Salut.
Re-bienvenue en enfer.
Oh, sérieusement. S'il y a une chose que je me suis dit quand je suis sortie de cette retraite silencieuse hier, c'est que je pitcherais mon téléphone par la fenêtre.
Ouais.
Je resterais là facilement une semaine de plus.
Pour ne plus jamais y revenir.
J'avais pas envie. Puis j'aime ma job, je t'aime, j'aime Denis, j'aime tout le monde, mais je... Ah, mon Dieu, Yann!
Si vous êtes en voiture ou encore si vous êtes au bureau, vous allez pouvoir le faire, mais tapez ça, là, écrivez ça quelque part, abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.
Ah oui, c'est un incontournable. S'il y a une chose que je tiens à dire avant tout, là, c'est que tu dois te permettre ce trip-là une fois dans ta vie. C'est weird, là, je te le dis, tu vois des affaires weird, tu files des affaires weird. T'es même pas obligé de faire un gros ménage de ta conscience. Là. Juste d'être là, tu découvres plein d'affaires, puis c'est pas cher. Là. La contribution que tu donnes, c'est pour aider la BS à se tenir debout. Là.
Exact.
C'est 85 par nuit, logé, nourri, 3 repas par jour. Tu manges super bien.
Puis tu peux pas parler.
Puis c'est drôle parce que le dernier message que j'ai vu avant de fermer mon téléphone vendredi soir, c'est le tien qui dit « lâche ton sel », il était 9h40.
Parce que j'ai vu que tu étais en ligne.
Oui, mais j'arrivais dans le stationnement à ce moment-là. Fait que mon téléphone était ouvert parce que j'avais le GPS puis tout le kit, ma musique, tu sais. Puis j'avais comme des gros papillons, on dirait en dedans, parce que je savais pas à quoi m'attendre. Puis j'avais peur parce que... On a toutes des têtes différentes, là, mais moi, la mienne, entre mes deux oreilles, là, elle spin en motadine. Puis des fois, elle spin bien trop vite pour le nécessaire. Là. Puis j'avais comme peur de me ramasser dans des grosses pensées, des grosses remises en question qui faisaient que j'allais revenir et j'allais vouloir tout foutre là, là. Tu comprends? C'est mon genre. Fait que j'étais comme bien stressée de me dire, imagine, genre lundi, je veux remettre ma démission. Imagine, je veux laisser mon chum. Imagine, je veux plus acheter ma maison. Tu sais, j'étais vraiment anxieuse de ce qui m'attendait. Puis finalement, quand je suis arrivée, puis tu sais, je vous épargne tous les détails parce que je pourrais en parler pendant 3 heures, mais...
On a un bon 20 minutes, là. Étale-toi, là.
OK. Quand je suis arrivée sur place, la première chose que j'ai entendue en sortant de l'auto, premièrement, il faut savoir que l'abbaye, tu sais, c'est sur une montagne, t'es devant le lac Memphremagog, puis il y a rien autour, là. Il y a rien. Il y a des arbres, puis en masse, justement, de terrain de large.
Il y a un petit cimetière de frères, je sais pas si tu l'as vu, mais il est juste à côté, dans la petite forêt.
Oui, quand tu t'en viens, mais sur place, je veux dire, c'est tellement vaste. Puis la seule chose que j'ai entendue quand je suis sortie, c'est les oiseaux. Pis la première réflexion que je me suis faite, c'est « Hey! » On a tellement de bruit autour de nous au quotidien que je remarque plus les oiseaux. Là, ça a l'air bien ésotérique. Là, je vous avertis, je suis encore sur un nuage. Okay? Mais je me suis dit « Oh, pelaille, okay, ça va être ça cette fin de semaine-là. » Entendre des affaires que j'entends plus. Parce que pour moi, quand je vais me promener chez nous en forêt maintenant, avec le bruit que j'ai autour de moi au quotidien, on parle tellement, la musique, le ci, le ça, la forêt, pour moi, c'est le silence. Mais la forêt est bruyante, là. Et t'entends les animaux, les oiseaux, les craquements, les feuilles, le vent, l'eau. Fait que c'est la première chose que j'ai remarquée, puis je me suis dit, oh, OK, tu sais, je vais en remarquer des affaires cette fin de semaine-ci que je remarque plus au quotidien. Fait que je suis rentrée, puis là, c'était spécial parce qu'il était 7h45, je le rappelle, et à 8h, il y a la dernière messe des moines. Ce qui fait qu'on m'avait bien averti que quand je rentrerais, il n'y aurait personne pour m'accueillir puis qu'on viendrait me chercher après la messe. Mais là, moi, tu comprends qu'à ce moment-là, je ne sais pas durer combien de temps la messe. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne suis jamais allée là. Puis c'est immense, l'abbaye. Là. Ouais. C'est fait en gros L. C'est... Tu te perds là-dedans. Là.
C'est comme une grosse église avec un service d'hôtellerie qui est collé dessus, mettons.
Oui, exactement. Puis quand je suis entrée, bien là, j'ai attendu une bonne demi-heure. J'entendais au loin les chants. Puis là, j'osais comme pas quitter où j'étais, parce que j'avais peur de me perdre, puis j'avais peur que personne me voie, puis je me ramasse à dormir sur une chaise toute la nuit.
Ben non.
Mais ça a failli, Yann! Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais aller voir, il y a quand t'entre un géant corridor, là. C'est coloré de plein de briques, c'est
beau,
magnifique,
hein?
là. Mais quand je dis un long corridor, là, c'est pas... Un long corridor, là!
T'as-tu vu la porte des Sœurs Cloîtré?
Ben...
C'est au fond de ce corridor-là. Si tu longes le corridor,
oui.
là, tu te pètes la face dans la porte des Sœurs Cloîtré.
Ouais. Sais-tu ce qui est spécial, par exemple? Je ne sais pas s'ils sont en vacances ou en punition, là, mais moi, j'ai vu aucune sœur. Je n'ai vu que des moines de toute ma fin de semaine.
T'as pas vu des petites madames? Sont hautes comme trois pommes, sont blanches comme des draps.
Mais sais-tu ce que je me suis dit, je pense?
Il existait peut-être pas quand j'ai vu.
Peut-être dans ta tête. Ouais. Non, mais la réalité, c'est que je sais qu'il y a de la construction en ce moment, ce qui fait que où on est habité, je pense que c'est pas la même place qu'habituellement. Parce que de ce que je comprends, habituellement, on est comme dans un endroit externe. Tandis que là, nous autres, on était vraiment un étage, les gars, l'étage d'en haut, les filles. Ils nous avaient comme toutes placées à la même place parce que je pense qu'il y a des rénovations. Fait que peut-être, écoute, que les sœurs sont relocalisées. En attendant, j'ai aucune idée, mais je n'ai vu que des moines pendant cette fin de semaine-là. Fait qu'à un moment donné, il y a un moine qui a fini par m'accueillir. Puis là, me donner ma chambre. Là, c'est particulier parce que tu te promènes avec ton set de clés toute la fin de semaine, là, parce que tu as trois clés sur ce set de clés-là. Tu as ta chambre, tu as les toilettes parce que c'est séparé homme-femme. Là. T'es même censé ne pas te croiser sauf dans les aires communes, c'est-à-dire que tu n'es pas censé utiliser les mêmes escaliers.
Uh-huh.
Et tu as la clé qui ouvre toutes les portes de l'abbaye parce qu'en dedans, tout est barré, sauf ce qui est accessible au public pour des visites. Donc, la chapelle, puis le grand corridor, puis la boutique, mettons. Fait que tu te promènes avec ça tout le temps. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rentrer nulle part. Tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire.
As-tu été dans les vieilles bibliothèques?
J'ai été. J'ai passé énormément de temps là. Et que j'ai passé du temps là. Parce qu'effectivement, que quand tu finis par débarrer la porte puis que tu as accès à ce pourquoi tu as payé, tu as la grande bibliothèque, vieille bibliothèque avec, mon Dieu, des ouvrages sur la religion de tout bord, de tout côté, mais des ouvrages aussi sur le développement personnel, la jeunesse, toutes sortes d'affaires. Puis tu as des divans, tu as le petit feu, puis tu peux passer bien du temps dans cet espace-là aussi qui est un espace commun. Puis je te dirais que je me suis promenée entre là. La chapelle, honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps dans l'église.
T'as-tu entendu les frères chanter?
Ah oui. J'ai fait quelque chose que je pouvais pas faire,
tu
mais je voulais pouvoir faire entendre ça à mon chum. Oui.
Ben là, faites-nous l'écouter, là.
OK.
Moi, je veux juste vous dire que, tu sais, j'avais pas été... Ça m'intéressait pas d'entendre les frères chanter, OK? Ça m'intéressait pas. Je suis pas très religieux. En fait, je suis pas religieux pour Saint-Saëns, je vous le dis souvent. Puis à un moment donné, je me suis levé trop tôt. Puis j'étais faire le tour de l'abbaye pendant la nuit. Il devait être autour de 5 heures du matin. Puis quand je suis rentré à l'abbaye, je les entendais chanter. Puis je me suis dit, je vais toujours bien aller assister 5 minutes à ce qu'ils sont en train de faire. Puis je me suis assis dans le fond de l'église. J'étais la seule personne qui était là.
Ah, c'est spécial.
Sinon, c'était une quinzaine de frères qui étaient un en face de l'autre puis qui chantaient. Puis moi, j'étais assis dans le fond. Puis j'ai pogné 2 minutes. Je me suis dit, un peu, ça, c'est leur vie. Ils font 5-6 fois par jour, ils font ça, en plus de faire du fromage, tous des produits du terroir.
Parce que c'est eux qui s'en occupent, t'as raison.
Exact, le sirop d'érable. Ils en font en tabarouette des affaires. Mais ça, c'est leur vie. Écoutez ça, ça pogne au cœur.
J'ai 2 extraits, puis je les ai pas réécoutés depuis, fait qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous faire entendre un autre extrait que j'ai noté.
Ouais, je sais pas si les gens l'entendent bien. Peut-être qu'on pourrait le faire sortir puis augmenter le son, mais c'est incroyable.
C'est en harmonie, en fait. Ouais. Là, vous avez le son de mon téléphone, puis j'étais quand même loin parce que je voulais pas être dérangeante non plus. Mais c'est fascinant. Ça commence à 5 heures le matin, la première. La dernière est à 8 heures le soir. Puis moi, j'ai vécu quelque chose que je n'étais pas censée vivre. J'imagine c'est vraiment un addon parce que j'étais là cette fin de semaine-là. Mais hier, c'était le dimanche des Rameaux. C'était le dimanche avant Pâques. Fait que là, tu avais des célébrations vraiment particulières auxquelles je ne m'attendais pas.
Ouais.
Fait que tout le monde venait chercher sa petite branche là, pour quand Jésus revient. Là, puis là, l'acclamer, puis tout. Puis t'avais une cérémonie dans le hall avec de l'encens, puis tout le kit. On faisait le corridor à marche tranquille, puis t'avais après ça la grosse cérémonie dans l'église. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis tu sais, je veux juste dire, quand tu fais ce séjour-là, t'es pas obligé d'aller aux messes. Puis c'est pas ça le principe, pantoute, là. Ils savent que t'es là pour une réflexion intérieure ou pour juste vivre un moment présent. Mais... on dirait que tu te laisses emporter en disant « Tant qu'à être là, je vais vivre l'expérience au complet. » Fait qu'à Avant chaque repas, tu as juste 45 minutes pour manger, là. Avant chaque repas,
imaginez-vous, là, vous êtes seul. Vous arrivez, il est 5 heures du matin. Ils sont une quinzaine, une vingtaine à chanter ça.
C'est fou. Puis je sais que ça a l'air weird, là, mais il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de son et de bruit, sauf ça.
Oui, exact.
C'est complètement fascinant. Tu les entends tellement de loin juste parce qu'il ne se passe rien d'autre. Là. Fait avant chaque repas, tu te ramassais, veux pas, à la messe parce que tant que la messe n'est pas terminée, tu peux pas aller manger. Fait que c'est particulier, les heures de repas sont très fixes. Tu as 45 minutes pour manger, tu as 8 heures le matin, tu as midi, puis tu as 5 heures. Fait que tu suis ça, là. Apporte-toi des collations si jamais tu as besoin ou tu veux autre chose, parce que c'est ta seule possibilité, là. Fait que c'est ça, ça a été, bref, une fin de semaine où, bon, j'ai eu beaucoup de réflexions, où j'ai écrit beaucoup, beaucoup, où j'ai lu beaucoup.
Comment t'as trouvé ça de ne pas parler pendant 3 jours?
Honnêtement, je vais répondre en 2 parties. La première partie, je vais te dire que j'ai trouvé ça vraiment plus facile que je pensais. Parce que ça devient naturel, parce que tout le monde le fait. Tu sais, quand t'es dans une... Quand tu vas à la bibliothèque, Yann, là, dans la vie, je veux dire, là, et tu parles tout bas, hein? Parce que tout le monde parle tout bas, puis c'est ça qu'on te demande de faire, puis c'est ça l'ambiance.
Ouais.
Fait que ça, c'est une... j'ai l'impression que c'est une switch qui se fait vraiment naturellement. Parce que, justement, c'est silencieux. Moi, le bout que j'ai vraiment trouvé excessivement difficile, là, puis ça a l'air super niaiseux, là, c'est les repas. Parce que moi, dans mon univers à moi, la façon que j'ai été élevée, puis je pense au Québec en général, on partage les repas. Puis là, ben tu dis pas un mot, t'es tout assis cordé un à côté de l'autre. Quand même, cordé pas pire en passant, là, t'as pas trop d'espace personnel. Puis un en face de l'autre, puis là, ben tu manges. Mais là, tu sais, t'essaies de pas trop faire de bruit avec tes ustensiles dans son assiette parce que c'est tout ce que t'entends. T'essaies de pas trop marcher fort parce que c'est tout ce qu'on entend. Puis tu peux pas dire « passe-moi le sel, s'il te plaît ». Tu peux pas dire « merci, s'il vous plaît ». Tu peux pas... T'es vraiment dans ta bulle. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça particulier parce que tes réflexes de bon citoyen prennent un peu le bord. Le seul moment où j'ai brisé le silence dans ma fin de semaine, c'est vraiment particulier, le samedi matin. À un moment donné, j'étais complètement perdue. Complètement. Je m'étais perdue dans l'abbaye. Je trouvais plus où manger.
En passant, l'abbaye est carrée, là.
Oh oui, attends. Non, là, tu ris de moi, mais attends une minute, là. Attends une minute. Il y a une porte, quand tu descends, pour vous donner une idée, là, il y a comme 4 étages. Okay?
Ouais.
Quand tu es rendu à la mezzanine en bas, tu dois redescendre au sous-sol totalement pour avoir accès à la nourriture.
Exact.
L'affaire, c'est que c'est comme une... j'allais dire une porte. C'est un mur qui s'ouvre et qui se ferme. Fait quand tu y vas la première fois puis que c'est ouvert, ben c'est logique, tu longes le corridor, tu vas manger. La deuxième fois, quand, mettons, tu fais pas attention, tu descends puis tu te rends compte que... Il n'y a plus de porte, parce que c'est un mur, en fait, qui est fermé. Mais là, tu te demandes si t'es au bon endroit. Là, tu changes d'étage. Là, t'es pas sûr, tu reviens en bas. Tabarnouche, je me semble, je suis sûr que c'était ici que j'étais hier. Ah, non, écoute, la porte est fermée, clairement, c'est pas ici que j'étais. Ouais. Fait que, hé, là, mêlée. Puis à un moment donné, il y a un concierge qui m'a vu, tu comprends, puis il m'a juste fait signe, tu sais, parce que là, t'apprends de parler en signe. Fait que j'ai fini par lui dire merci. Parce qu'il m'a amené à la bonne place, puis j'ai été capable de manger ce midi-là. Mais c'est le seul moment où j'ai...
La bouffe, c'était comment à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac?
C'est bon, ben c'est
comfort food.
Ouais, ouais. Chaleureux, tu sais, je veux dire, premier repas, mon repas préféré, du pâté chinois, j'étais comme, mon Dieu, il n'y a pas de hasard, hein? Fait que j'ai mangé mon petit pâté chinois, macaroni en soirée, t'as tout le temps des fromages de là-bas, évidemment, qui sont disponibles, leur compote de pommes à eux. Tu sais, j'ai mangé avant de partir hier, c'était une grosse pièce de viande, là, super bon, full juteux, là, avec des patates, des petits légumes. T'as toujours les breuvages qui sont disponibles. Hier, on avait du cidre, c'était jour de fête, hein, c'était dimanche. Fait qu'on avait du cidre de pomme de la place qu'on pouvait prendre. Puis tout est fait, c'est ça, maison.
Puis parle-moi de ta chambre. Comment était ta chambre? Moi, je te l'ai dit, là, j'avais pogné 2 minutes parce que j'avais l'impression de revenir en 1810. Là.
Ouais.
Tu sais, tu rentres dans une chambre, il y a un crucifix, il y a un petit lit simple, il y a un petit bureau avec une petite chaise où tu peux écrire tes affaires. C'est vraiment de base.
Oui. Puis là, tu as les grandes fenêtres comme dans les films. Tu sais, celles là, comme dans les films de Disney là, que tu ouvres en même temps. Là. Comment tu appelles ça? Tu sais de quoi je parle?
Des
là?
Clapets?
Des... Oui, genre. Là. C'est vraiment... C'est de toute beauté. Mais effectivement, c'est un genre de 10 par 10. Là. Moi, ça me fait penser à mes chambres de résidence à Jonquière. Et le petit petit lit simple, le petit bureau en bois, aucune décoration, c'est beige longtemps.
Y avait-tu le chapelet?
Oui, moi, il y avait vraiment la grosse croix là, accrochée au mur.
T'as-tu fait comme moi, tu l'as viré à l'envers?
Non, j'y ai pas touché. J'étais quand même, je te dis, je me suis laissé embarquer dans le jeu. J'y ai pas touché, je me suis pas touché non plus.
Parce que t'avais l'intention d'amener ton womanizer.
Je l'ai pas amené. J'ai voulu me libérer de mes tentations pour ne pas avoir à me délibérer du mal, là, c'est ça qu'ils disent. Fait que j'avais. T'as aussi un petit évier dans ta chambre. Ouais. Il n'y a pas de toilette, par exemple. Fait que les toilettes sont vraiment au bout du corridor. Fait que si tu pognes une envie en pleine nuit, là, vu que tout reste allumé, crée-moi que t'as de la misère à te rendormir parce que c'est compostel te rendre aux toilettes. Là. Mais c'est bien fait. C'est le fun. Tu recroises toujours les mêmes visages que j'ai trouvé. Tout aussi difficile que le repas parce que t'as comme l'impression, Mané, que tu connais un peu les gens qui t'entourent. Parce que t'es croises tout le temps, tu te fais comme des sourires sans te parler, tu captes une énergie de ces gens-là aussi. Puis moi, j'ai passé ma fin de semaine à me demander, c'est qui ce monde-là qui vient ici? Ils sont là pourquoi, eux autres? Il y a des gens qui étaient franchement croyants. J'ai croisé toutes sortes de monde, des gens qui dans les... Parce qu'il faut dire qu'autour de l'abbaye, t'as des sentiers pour te promener. Là. Tu peux marcher longtemps. Ouais. Je croisais des gens qui traînaient un chapelet dans chaque main en marchant. Tu comprends? Puis qui récitaient des prières. Je croisais des gens qui, comme moi, avaient l'air plus contemplatifs puis avaient l'air de vivre une expérience. Il y a toutes sortes de monde, des vieux, des jeunes, beaucoup de jeunes. Ça m'a franchement surpris.
Ouais.
La première soirée, j'ai croisé juste des filles, puis je me suis dit, bon, ben ça y est, tu sais, je vais catégoriser ça. On est une gang de filles qui veulent faire du travail sur eux-mêmes. Finalement, beaucoup d'hommes le lendemain que j'ai croisé dans les aires communes. Fait que non, ça a été vraiment, vraiment particulier comme expérience. Tu parles pas pendant tout ce temps-là. Les seuls moments où tu peux peut-être parler, c'est si tu vas à la boutique pendant ton séjour. Moi, je l'ai gardé pour la fin parce que je voulais comme pas gâcher l'expérience. Parce que là, faut bien que tu payes et que tu parles.
Qu'est-ce que t'en as tiré de tout ça?
Ouf! Hey, Yann!
De un, la dépendance au cellulaire est évidente. Là. La dépendance à Netflix est évidente.
Ben, sais-tu quoi? Puis je jure sur ma tête, mon téléphone ne m'a pas manqué. Du tout. Même que quand je l'ai retrouvé, j'ai comme senti une espèce de pression de « arc ». Je vais avoir plein de messages pour la job. Je vais avoir... Ça me tentait pas pantoute. Je sentais vraiment une pression de devoir éventuellement répondre à tout ça. Puis tu sais, catch up, là, reprendre l'information que j'avais manquée pendant la fin de semaine. Puis tu sais, le fameux « fear of missing out », moi, je l'ai beaucoup. Je l'ai pas ressenti cette fin de semaine-là, sachant où je m'en allais. Mais ce que j'ai beaucoup retenu pour répondre à ta question, là, la première, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en arrivant. Quand je me suis stationnée vendredi soir, j'ai réalisé que ma tête était déjà rendue à cette semaine. C'est-à-dire que j'ai tellement attendu ce moment-là d'arriver à cette retraite-là.
Ouais.
Puis maintenant que j'y étais, au lieu de me concentrer sur les prochaines heures, j'étais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais raconter lundi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, j'ai un déménagement qui s'en vient, mais j'avais la tête partout, sauf dans le moment présent. Fait que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Fait que j'ai retenu ça, d'essayer d'être dans le moment présent. Chaque fois que j'avais un moment où je savais pas quoi faire, je décidais de m'asseoir où c'était possible de le faire, puis de juste attendre. Que cette espèce d'anxiété-là passe, tu sais. J'ai retenu quoi? J'ai retenu beaucoup de choses au niveau très, très personnel. Là, puis il y a peut-être des affaires que j'ai pas nécessairement envie de mentionner ici, mais il y a une affaire, j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui s'informe beaucoup, qui aime beaucoup l'apprentissage sur soi, mais je prends peu d'action. Je consulte une travailleuse sociale depuis des années juste parce que j'aime ça, savoir qu'il y a quelqu'un à qui je peux parler aux 2-3 semaines. Ça me rafraîchit l'esprit, je repars à zéro, je me sens plus saine au quotidien. Je lis beaucoup, j'aime les concepts psychologiques, j'aime comprendre l'humain. Sauf que je réalise que j'ai les notions, mais j'ai pas les actions. C'est-à-dire que je sais dans quoi je suis inconfortable, je sais ce que j'aime pas. Je réalise ce qui marche pas dans ma vie, mais je fais rien pour le changer. Parce que des fois, j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur de rendre d'autres inconfortables, parce que j'ai peur du vide. Finalement, des classiques qu'on ressent tous à un moment ou à un autre. Là. Mais il y a beaucoup de ça qui a marqué ma fin de semaine, de me dire comme « tabarnouche, t'es nounoune, dans le fond, saute, tu perds quoi? » Fait que ça a été beaucoup, beaucoup de grandes réflexions qui entouraient ça.
Vas-tu le refaire dans quelques années?
Pas dans quelques années, dans quelques mois.
Oh, okay.
Si j'avais pu prendre une semaine de vacances, j'aurais prolongé certainement d'une semaine parce que j'avais envie de vivre un plus gros inconfort. 2 jours, ça n'a pas été assez pour moi. On dirait que je sentais puis je savais psychologiquement que j'étais dans une expérience. Fait que c'est comme si je me challengeais un peu à me dire « Tu es ma bière, check bien ça, comment je vais gérer. » Puis ça a été relativement facile, autant pour le téléphone que pour le mental.
Ben, je te félicite. Moi, je te connais juste au travail. Là. On est des collègues de travail, on est des amis au travail, mais on n'est pas des amis à l'extérieur. Là. On se voit pas quand on travaille pas. Puis j'étais sûr que tu allais capoter du fait de pas avoir tes trucs ou de pas voisiner les gens ou de
voisiner,
pas leur jaser.
Ça a été le plus dur. Voisiner, oui. Hein? Oui, ouais, parce que, tu sais, je croisais, puis les moines, là, tu sais, on a une image qui est très, très. Tu les imagines en train de chanter, puis tu as l'impression qu'ils font rien d'autre de leur vie, là. Mais, tu sais, quand il y en avait un qui était à l'accueil, là, ça rit fort, tu comprends? Quand ça accueille les gens, c'est dadon, là.
Ouais.
Puis, tu sais. J'avais envie de demander à ce monde-là comment ça se fait que t'es moine? Qu'est-ce qui t'a mené là? J'avais le goût de demander à des gens avec qui je mangeais autour de moi qui me perturbaient un peu par leur physique, leur façon d'être. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'avais comme... C'est ça, il y a une part, c'est peut-être la malformation de la job, là, mais j'avais le goût de poser des questions, puis ça m'énervait parce que c'est là que j'avais envie de parler puis que je pouvais pas.
Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, là, c'est que c'était possible de vivre une vie. C'est pas une vie qui m'intéresse, soit dit en passant, là, mais quand je les regardais, eux...
Ouais.
Les frères qui travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour l'abbaye, c'est que c'était possible de vivre une vie sans stress.
Mm. Ouais.
Il n'y a aucun stress là-bas. Ils sont logés, ils sont nourris, ils travaillent, ils ont du plaisir en travaillant.
Aucune influence extérieure.
Si on est capable d'envie d'avoir, d'atteindre ça, ce niveau-là, c'est-à-dire une vie sans stress, là, puis pas d'influence négative constamment, tabarouette, ça doit être le fun.
Ah, pour vrai, tu sais, j'ai eu la chance de poser ma question en quittant à un des moines, comment vous êtes devenu moine. Puis il m'a dit, ben moi, étant jeune, on est venu faire une visite de l'abbaye. Puis il dit, j'ai fait les démarches, puis je suis jamais ressortie. Il dit, je me sentais chez moi. Il dit, je trouvais ça tellement paisible ici. Ça avait rien à voir avec ce que je vivais. Puis c'est un homme qui vient de Charlebourg, qui n'était pas appelé de même. C'était-tu Gros Pain avant? Peut-être que je me trompe, là, peut-être que c'est mon imagination qui déforme, là, mais ça s'appelait pas Charlebourg. Dans le temps, il disait que le Bourgneuf n'existait même pas. mais il était dans le secteur Charlebourg, il venait de là, puis il a décidé d'aller à l'abbaye puis de ne plus jamais la quitter. Puis tu vois, ça avait l'air de quelqu'un de tellement sain d'esprit, là, puis pas des gens... Tu sais, je dis qu'ils ne sont pas affectés par l'extérieur, mais pas dans le sens ça devient une chambre d'écho. Ils s'intéressent à toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas les médias sociaux, ils n'ont pas le chiolage extérieur, ils n'ont pas... Je sais pas, ils n'ont pas de pression. Ils vivent leur petite vie pour leurs raisons. Ils font leurs choses. Tu le dis, travaillent avec la nature, font des beaux produits, sont passionnés. Bon, je ne deviendrai pas moine demain matin, mais de côtoyer ces gens-là, ça te remet un peu sur la balance de « et qu'on s'en fait trop, tabarnouche, que la vie est trop courte pour tout ce qu'on s'impose. »
Vraiment.
Ça m'a fait capoter ce volet-là. Fait que ça a été... Oui, vraiment une belle expérience, puis j'aimerais y retourner en octobre prochain, plus longtemps si je suis capable, sinon encore un deux jours. Il y a des gens qui nous demandent c'est quoi, c'est l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, je le répète, là. C'est à 2h30, 3h à peu près de route, puis la route vaut aussi la peine, là. T'es dans un champ, là. C'est vraiment exceptionnel.
All right, nous, on a un gros show pour vous autres. Julie Nadeau. Qui est Julie Nadeau? C'est une travailleuse sociale en milieu policier qui va être avec nous dans les prochaines minutes. C'est quelqu'un que tu as approché dernièrement.
Oui, bien, c'est une, tu l'as dit, travailleuse sociale qui, elle, a décidé de se spécialiser principalement avec les intervenants d'urgence. Fait que le milieu policier, mais le milieu des incendies aussi, les paramédics, elle a mis sur pied un programme de formation puis de soutien aux intervenants de première ligne qui aident leurs collègues. Il y a plusieurs années de ça déjà. Elle est enseignante aussi dans le milieu universitaire. Puis dans le milieu collégial. C'est une fille vraiment de terrain. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on puisse s'y jaser parce qu'il y en a tellement de questions. T'sais, un, je pense qu'on pourra faire la distinction première entre une travailleuse, un travailleur social, puis le volet psy, parce que c'est deux choses. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien exactement? T'sais, elle fait des interventions de crise, qu'elle dit, mais dans quel type de crise? Elle, c'est des interventions à court terme aussi. Fait que aussi que tu mets ce monde-là quand tu les as rencontrés, évidemment, il y a le volet choc post-traumatique. Il y a vraiment beaucoup de choses à jaser. Le taux de suicide aussi dans ces milieux-là. Puis, elle se concentre beaucoup sur l'homme. Fait que 88-971-1021 si vous avez des questionnements.
Parfait. Puis, pour ce qui est de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, le site Internet, c'est abbaye.ca. Donc, abbaye.ca. Oui. abbaye.ca. Puis, vous allez voir à quel point c'est de toute beauté.
Hey, je vous mets au défi, pour vrai. J'ai l'air vraiment d'être... mais je vous mets au défi 971-1021. Peu importe la raison pour laquelle vous y allez, là, juste d'avoir la paix, il y a des gens qui étudiaient. C'était simple de même. Ils ne cherchaient pas une réflexion de soi, ils étudiaient. Fait que peu importe la raison pour laquelle vous pourriez y aller, c'est pas cher. Puis donnez-moi des nouvelles si jamais vous bookez ou vous faites le saut. Moi, ça a vraiment... Tu me disais avant de partir, il y a un avant puis un après, Audrey. Oui. C'est drôle parce que j'étais un peu sceptique. Je me disais comme, hey, voyons, là, ça va être beau. Là. Pour vrai, c'est vrai qu'il y a un avant puis un après.
C'est un défi que quelqu'un m'avait lancé. C'est vraiment pas mon genre de passer 3 jours à quelque part dans le silence.
Avec des moines.
Je l'ai fait, surtout avec des frères. Je l'ai fait, puis il y a des choses que j'ai laissées là-bas que je ne ramènerai plus jamais.
Oui, non, mais je te comprends jamais, complètement.
All right. Hey, nous autres, on s'en va en musique avec les vulgaires machins. Les news de Max s'en viennent dans les prochaines secondes. Il est 10h27. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021.
Je me possède, je l'oublie. Boulevard
101. Bon, il y a des auditeurs qui nous ont écrit tantôt pour nous dire « Quand vous parlez, on entend un certain sifflement. » On a réussi à trouver le problème.
Oui, vous étiez pas fous, la gang.
C'est notre technicien.
Oui. C'était lui le problème. Il sifflait en arrière dans le micro. C'est étonnant. Là.
Non, c'était un fan d'ordinateur.
Oui.
Puis les ordinateurs sont comme ici, sont au sol. Bien, ils accumulent la poussière, puis il faut les nettoyer une fois de temps en temps. Fait que là, le fan était problématique. Et là, c'est réglé.
Je vais te dire de quoi, Yann, ça m'a brûlé. Parce que j'essayais de te raconter mon récit de fin de semaine. J'entendais juste ça, puis je me disais focus.
Moi, j'essayais de trouver c'était quoi. Les autres gens disaient, hey, vous parlez bien sillement en arrière.
Oh, c'est pas grave.
On est fragile de même. Hey, on a des belles promotions à la station, le fameux Rock'n'Ball. C'est jusqu'au 17 avril. Vous n'avez pas encore participé, c'est encore le temps. Il reste encore quelques jours, et ça, c'est grâce à Dernais Pneus et Mécaniques ainsi qu'à Nokian Tires. Le fameux Rock'n'Ball, c'est 2 billets pour aller voir Lincoln Park à Boston au TD Garden avant même leur passage à Québec. Il y a le côté ball aussi, 2 billets pour les Red Sox au célèbre Fenway Park le 2 août prochain contre les Astros de Houston. Ça inclut le vol, l'hébergement, 500$ en argent de poche parce qu'on fait les choses en grain, c'est la station. Et pour participer, à chaque fois que vous entendez une toune de Lincoln Park, vous allez sur le site www.blvd.fm et vous écrivez l'heure à laquelle vous avez entendu la chanson. Et c'est 3 participations maximum par jour. Et il y a un finaliste dans Gravel dans le retour qui va être nommé. Et plus tu écoutes Boulevard, plus tu maximises les chances de gagner, bien entendu, parce qu'elles peuvent passer à toute heure du jour, ces chansons-là de Lincoln Park. Aussi, en collaboration avec Nokian Tires, ce mercredi, Reg Against le matin va faire tirer 4 pneus d'été. Donc, c'est une valeur de plus de 1000$. Et tout ça, c'est possible grâce à Nokian Tires et Dernais Pneus et Mécaniques. Vous avez des choses à nous dire? 418-971-1021. 418-971-1021. On revient.
Ce segment d'émission, présenté par Kia Québec.
Pinchot.
10h38, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je suis accompagné d'Audrey Pinchot, qui a vécu 3 jours intense à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Abbaye.ca, je pense que c'est le site Internet pour aller voir. Puis je regardais tantôt les images. T'as-tu été voir sur leur site Internet?
Mais oui, c'était cœur. Hein?
C'est des images en drone.
Ouais.
Qui montre à quel point l'abbaye, c'est de toute beauté. Moi, j'y avais été, c'était au printemps, début du printemps. Donc, tu sais, j'avais pas encore toute la verdure qui était là. Il restait encore un peu de neige, bien entendu.
C'est ça, là.
Mais les images avec le drone, là, te montrent l'abbaye en plein été, c'est de toute beauté.
Mais l'automne, si vous avez la chance d'y aller l'automne, là, moi, c'est là que je vais retourner. Ça doit être complètement magique avec les couleurs.
Exact. Un peu comme aujourd'hui, c'est complètement magique la température. On est autour de quoi? 7-8 degrés. Voilà, c'est ça, 7-8 degrés ensoleillé pour aujourd'hui. Maximum de 14. Ça peut monter jusque-là. On va être très heureux. Minimum de plus 4 degrés pour ce soir et cette nuit. Peut-être un peu de pluie cette nuit, c'est ce qu'on nous mentionne. Parce que demain, tout au long de la journée, ce sera de la pluie. Maximum de 8. Mercredi, de la pluie intermittente. Maximum de 7. Jeudi, un ciel dégagé avec un maximum de 7. Et vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 12 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Je vous rappelle que ce soir, Ivan Dominov pourrait faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey contre les Blackhawks de Chicago. Parce que le Canadien joue à partir de 19h.
Mais là, ça n'a pas été confirmé là, qu'il a embarqué sa glace encore.
Ça, il pourrait. C'est pour ça que je l'ai mis au conditionnel.
Il faudrait.
Oui, mais faudrait. Il pourrait. Es-tu prêt?
Ça
je pense
va
que
arriver.
Oui. J'ai regardé des images de ses pratiques dans les 2 derniers jours, puis ça semble bien aller. Là. Il y a une couple de défenseurs qui étaient sur l'équipe de pratique qui ont vu un Ivan Demidov qui, lui, avait l'intention de jouer ce soir. Fait que j'ai bien hâte de voir ce nouvel arrivant chez le Canadien de Montréal en espérant qu'on confirme notre place en séries éliminatoires. Notre invitée pour les prochaines minutes, c'est Julie Nadeau. Elle est travailleuse sociale en milieu policier. On est très content de l'accueillir. Salut Julie.
Hey, bonjour, merci.
Est-ce que c'est ta première fois que pour toi en radio?
Non.
C'est pas ta première fois.
Mais c'est la première fois avec vous autres.
Mais c'est la première fois.
On se rappelle toujours de notre première fois.
Et voilà.
Espérons que ce ne sera pas la dernière fois, Julie. Travailleuse sociale en milieu policier. Bon, définis-nous ce que c'est qu'une travailleuse sociale, puis après ça, tu nous définiras ce que c'est que travailler dans un milieu policier.
Parfait. Bon, une travailleuse sociale, en fait, c'est une personne qui est là pour offrir de la relation d'aide à quelqu'un qui va pas super bien, hein, parce qu'on gère pas le bonheur de personne. On a quand même un spécifique assez particulier. On parle souvent des psychologues, les travailleurs sociaux. On ne travaille pas juste à la DPJ. Important de faire ce mythe. Donc, notre objectif, c'est d'aider la personne, mais en tenant compte des facteurs environnementaux. Donc, la culture, ce qui se passe autour, les politiques sociales, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moyens d'offrir de l'aide à ces personnes-là? Le côté masculin, moi, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Je suis dans un milieu de gaga. Alors, voilà, c'est ça, une travailleuse sociale.
Donc, la différence entre la psychologie, justement, puis travailleur social, je trouve comme ça important qu'on fasse la distinction parce que souvent, les gens ont tendance à dire, même au quotidien, « Hey, ça va pas, je vais aller voir un psy. » Moi, je vois une travailleuse sociale depuis un peu plus que deux ans et demi, puis je veux dire, moi, ça a fait la différence dans ma vie, là. Mais peut-être instaurer, justement, le parallèle.
Bien, en fait, on a souvent cette demande-là, puis on a l'air de la version « wish », des fois, des psychologues.
Bien oui,
qui est pas le cas.
C'est ça, c'est pour ça que je veux qu'on en parle.
Donc, on a vraiment les facteurs environnementaux un peu plus à cœur. Je ne dis pas que les psys ne l'ont pas. Il y a des gestes qu'on ne peut pas poser. Là, je ne tomberai pas dans la loi sur la psychothérapie.
Ouais.
Mais on est là pour venir en aide. Moi, mon approche, elle est très terrain. Je vous dirais que j'ai souvent mes bottes à cap dans les pieds et j'embarque sur la route avec les policiers, pompiers, paramédics. Et je fais de l'intervention live quand ça se passe. Donc, je suis dans l'ici maintenant avec eux. Puis, je tiens compte des facteurs culturels, c'est-à-dire le milieu masculin, le milieu qui a de la misère à demander de l'aide. Ça, c'est très concret dans ma pratique. Et aussi de leur réalité. Puis je parle police, pompiers, paramédics, parce que c'est des langues avec des codes radio. Puis
c'est différent,
c'est
ce
très
là.
Différent. Ouais.
Okay. Comment ça fonctionne? Mes grands-parents, ils étaient dans la police, puis ils m'ont jamais parlé d'une travailleuse sociale qui travaillait en milieu policier. Comment ça fonctionne? C'est les gars qui communiquent avec toi, puis qui disent Julie, j'ai entendu parler de toi, de tes services. J'aimerais ça te rencontrer en tant que travailleuse sociale. Puis c'est quoi les premières rencontres? De quoi ça a de l'air? Fais-moi rentrer dans ton merveilleux monde.
Oui, avec plaisir. Bien, en fait, ils peuvent rentrer de plusieurs façons. Ils peuvent entrer soit directement en communiquant avec moi, soit en faisant une demande via la Vigile, qui est un organisme qui vient en aide aux intervenants d'urgence depuis 25 ans, ou encore c'est les organisations qui m'engagent. Fait qu'il y a quand même trois voies d'accès différentes. Et ben, souvent, quand les gens demandent de l'aide, ils sont tellement cute à la première rencontre, souvent ils me disent « Bien là, je sais pas comment ça marche, il va falloir que tu m'expliques, puis là, je sais pas pourquoi je suis ici, puis là, ils essayent de me faire un rapport d'événement de ce qui vient de se passer. » Puis là, je fais « Hey, on va y aller comme tu le files, puis laisse-moi driver un peu. » Ils ont de la misère à être dans la posture de l'aider.
Ouais.
C'est eux les aidants d'habitude. Fait qu'il faut vivre avec cette réalité-là. L'humour est très présent. J'en parlais avec Dani tantôt dans le milieu. C'est un milieu qui a un humour assez particulier, que j'appelle affectueusement l'humour louche. Donc, ben, ça fait partie des séances aussi. Il faut être prêt à entendre leur façon peut-être de tenir leurs émotions à distance de bras. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, ils sont charmants. Je les aime profondément depuis 28 ans. Mais c'est ça. Fait que c'est ça la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je vais être là quand ils ont des besoins. Moi, je fais principalement de l'intervention de crise.
Okay. Mais est-ce que les gars sont désorganisés quand ils font affaire avec toi? Je vais t'aider un peu parce que je vois que tu as de la misère avec tes écouteurs.
Oui.
Juste le détwister.
Détwister, merci.
Voilà.
C'est bon. Merci.
Donc, moi, là, je t'assis, est dans un café, puis je te parle. Bon, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à faire mon travail parce que j'ai quelques difficultés. Ouais. C'est quoi les difficultés que nos policiers peuvent rencontrer qui fait en sorte qu'on se ramasse devant une travailleuse sociale?
Bien, moi, c'est principalement le trauma que je fais. Donc, intervention après un événement potentiel traumatique. Donc, décès, blessure grave, infraction de caractère sexuel. C'est vraiment ça, mon spécifique. Puis dans des cas de demande d'aide par rapport au suicide. Moi, c'est mes deux, je dirais, dada. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a une séparation. Ça peut être parce qu'il y a des enjeux avec les enfants. Ça peut être parce qu'il y a une difficulté d'adaptation. Je pense à mes policiers SQ qui sont déployés partout à travers la province. Le policier part, je dis n'importe quoi, Québec métro, puis est transféré aux îles de la Madeleine. Bien, ça se peut que l'adaptation soit pas tout à fait facile.
La même chose, ouais.
Absolument. Donc, moi, je m'intéresse principalement aux enjeux qui touchent le travail, puis comme je dis, principalement le trauma. Donc, des fois, ça arrive qu'ils sont tout brisés quand je commence l'intervention.
Ouais, puis c'est normal, tu sais, je sais pas Audrey, mais on s'imagine jamais tomber sur un enfant décédé.
Mais non.
Durant une tragédie, que ce soit parce qu'il a été tué ou que ce soit parce qu'il y a eu un accident, puis toi, ben, tu dois être le premier à constater ça. Ces gens-là, ces hommes-là et ces femmes-là voient des choses que le commun des mortels ne verra jamais, et ils doivent vivre avec ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un événement qui est particulier, mais moi, je vous ai déjà raconté l'histoire du gars qui est passé en dessous de l'autobus du RTC sur Laurier. J'ai réagi, je suis allé l'aider, je suis rentré faire mon corps de travail, finir le corps de travail que je faisais. Puis c'est le soir où là, je suis allé prendre ma douche.
Ça t'a rentré
là, j'ai revu ces images-là, je me suis dit, mais voyons donc, tu sais, c'est... Puis moi, ça n'a pas été un gros traumatisme, mais je l'ai vécu par la suite. Si tu accumules ces histoires-là qui sont hyper négatives parce que tu ne veux pas voir ça, si tu n'en parles pas, ça doit être épouvantable.
Bien, c'est intéressant l'exemple que tu amènes, Yann, parce que les policiers, ce qu'on sait avec les statistiques canadiennes, c'est qu'ils vont rencontrer entre 600 et 850 événements potentiels traumatiques dans une carrière, alors que monsieur, madame, tout le monde peut en avoir 2 à 3 dans sa vie. Fait quand on parle de surexposition, on parle d'un cumul qui s'installe, puis on parle aussi des difficultés de ces gens-là d'en parler, parce que souvent, les gens vont leur répondre, oh, « mais t'as choisi ce métier-là ». OK, j'ai choisi ce métier-là, mais j'ai pas choisi les scènes sur lesquelles je vais être assignée. J'ai pas choisi non plus toute l'émotivité des gens qui vont être sur place, parce que ça aussi, c'est un facteur qui est extrêmement important. C'est rarement le fait d'avoir un décès, une personne décédée en avant d'eux qui est difficile. C'est plus toutes les réactions des gens autour, des personnes qui l'ont trouvé, de l'état de choc des victimes, la famille, les voisins, les véreux, parce que le véreux d'Amérique n'est pas en voie de disparition. Donc ça, c'est toutes les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé. Donc ça ajoute quand même un fardeau à ces personnes-là. Puis moi, un souci que j'ai, c'est aussi le Bureau des enquêtes indépendantes. Les policiers peuvent être enquêtés à la suite d'un décès ou d'une blessure grave qui est commise dans leur intervention. Donc, d'avoir, par exemple, à faire feu sur quelqu'un, que la personne décède, c'est déjà traumatique. D'avoir à faire des manœuvres sur cette personne-là, deuxième trauma. Et le troisième, c'est d'être enquêté puis d'attendre peut-être un an avant que le BEI dépose, BEI, Bureau des enquêtes indépendantes, dépose son rapport. Donc, on est à 3 traumas cumulés dans le même événement. Et comme je vous dis, moi, ce que j'essaie de plus défaire, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est un peu d'expliquer que ces gens-là, même si on choisit ce métier-là, ne sont pas nécessairement prêts. Puis leur cerveau, mais c'est un cerveau d'humain, normal.
Ouais. C'est comme un métier où ils n'ont pas le droit à l'erreur. T'sais, nous autres, on peut en faire n'importe quand des erreurs, mais les règles d'engagement pour un policier avant de faire feu, c'est est-ce que ma vie est en danger ou la vie de quelqu'un d'autre est en danger? Mais si le jeune a un gun à plomb, puis le policier, il ne sait pas que c'est un gun à plomb, puis le jeune, il pointe le policier est en mesure de tirer là, à ce moment-là, s'il le fait, puis après ça, il se rend compte que c'est un gun à plomb.
Tu t'en veux, j'imagine.
Ben, tu t'en veux.
Clairement.
C'est pas de ta faute. Mm-hmm. T'avais raison de tirer, mais là, t'as le bureau d'enquête sur le dos en plus. Ça doit être hallucinant ce que ces hommes-là et ces femmes-là vivent.
Absolument. Puis rajoutez à ça ce que j'appelle le tribunal populaire du Québec, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui vont donc avoir une opinion sur le dit policier parce que c'est un gun à plomb, puis franchement, il aurait pas dû, puis... Je dis pas que dans tous les cas, ils sont tous blancs comme neige, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, il y a un fardeau de stress incroyable avec ces situations-là.
Tu sais, il y a un policier, dans les derniers jours, un policier de la Sûreté du Québec qui a mis fin à ses jours. C'est épouvantable. Puis, tu sais, j'en parlais hier à maison, puis il y a quelqu'un qui a eu comme réflexe de me dire « Ouais, mais ces gens-là, ils ont quand même une belle vie, là. Tu sais, t'es policier, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas l'âge pour comprendre encore, tu sais. Mais tu sais, il est policier, il gagne un bon salaire. Oui, mais c'est parce que, justement, il fait des affaires que toi, tu feras probablement jamais dans ta vie. C'est difficile à comprendre, tu sais. Puis quand... moi, je trouve que c'est une preuve de force, Julie, quand les policiers et les policières disent « Julie, j'ai besoin d'aide. »
Absolument.
Parce qu'ils ne sont pas habitués de s'ouvrir, ces gens-là. Puis rendu à la maison, ton conjoint, ta conjointe, même si c'est supposé être ton coussin, elle comprend pas nécessairement
non, pas
ce
ta
que
réalité.
Tu vis. Ben non.
Est-ce que ces gens-là demandent de l'aide ou tu imposes l'aide dans ton quotidien?
Majoritairement, les gens vont finir par demander de l'aide. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que dans les dernières années, ben moi, ça fait 28 ans que je pratique, là, j'ai vu vraiment un changement au niveau de la demande d'aide. Les gens sont beaucoup plus enclins à demander de l'aide. Quand moi, j'ai commencé à la fin des années 90, je m'excuse, c'est pas 2025, mais je me faisais dire, on n'est pas des momounes, on ne demandera pas d'aide, ça n'a pas rapport. Et il y a en thérapie avec un grand thérapeute qui s'appelle Jack Daniels. Donc, on avait beaucoup de consommation.
C'était vraiment...
Oui, c'était ça. Maintenant, les gens sont plus enclins à demander de l'aide, mais dans tous les cas, c'est pas nécessairement ce qui est fait. Quand on voit des suicides, à chaque fois, je le poste ailleurs sur mes réseaux sociaux, à chaque fois qu'il j'ai un intervenant d'urgence qui passe à l'acte, je me dis, Caroline, on a des ressources, on a un filet de sécurité. Je blâme pas la personne, mais c'est pas ça. Mais ça me fait de la peine à chaque fois. Ouais. Puis j'ai le cœur en miettes d'avoir quelqu'un qui passe à l'acte. Puis je suis pas là pour juger, je sais pas c'est quoi sa situation, cette personne-là. Mais clairement, qu'on se dit à chaque fois, Caroline, on a-tu échappé une occasion d'aider? Là?
As-tu des genres de statistiques du taux de suicide dans les métiers d'urgence? J'imagine que c'est différent aussi, paramédics, policiers, pompiers, mais.
Mais il y a une particularité, on n'a pas de statistiques parce qu'au Québec, on fonctionne pas comme ça, éventuellement, peut-être un jour, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du passage à l'acte, les intervenants d'urgence, parce que là, on parle des polices aujourd'hui, mais j'aide tous les intervenants d'urgence, ce qu'on constate, c'est que ben, y a deux choses importantes. Un, ils ont de la misère à demander de l'aide, puis quand ils en demandent, puis qu'ils sont amenés à l'hôpital contre leur gré, ce qu'on appelle la P38, souvent, ils savent quoi dire à l'hôpital pour être ressortis aussi rapidement, parce qu'ils connaissent l'architecture légale. Et dans un deuxième temps, c'est quand ils passent à l'acte, c'est rarement une tentative. C'est plus rarement un décès. Plus souvent, pardon, un décès. Donc, ils savent quels moyens utiliser pour que ce soit létal. Ça, c'est vraiment une particularité qu'on a. Les stats, bien, ça dépend parce qu'au Québec, le bureau du coroner ne compile pas par métier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils font partie des endroits où est-ce qu'il y a le plus de décès par rapport aux tentatives. Mm. C'est ce que je peux vous dire à l'heure actuelle.
Qui paye Julie Nadeau, travailleuse sociale en milieu policier, quand un policier fait appel à toi? Est-ce que c'est lui qui doit débourser de ses poches ou c'est le corps de police?
Ben, y a plusieurs cas d'espèces. Il y en a que c'est eux qui payent. Il y en a que c'est leur assurance. Il y en a que c'est leur syndicat. On a vraiment beaucoup d'affiliations. J'ai ma petite gourde de la PPQ qui est le syndicat de la sûreté aujourd'hui. C'est pas volontaire. Donc, on a beaucoup de syndicats qui offrent à leurs policiers, à leurs policières. Même chose au niveau des paramédics. Au niveau des paramédics, si je peux me faire une petite parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui défraient ces coûts-là. Donc, il y a des compagnies qui vont m'embaucher. Je vais faire, par exemple, un quart de travail par mois avec eux. Je vais aller faire des rencontres en caserne. Par la suite, je m'en vais sur la route. Donc, on a vraiment des façons très différentes d'avoir accès à des services. Mais assurément, sinon, ils ont l'assurance. Là. Si ce n'est pas l'employeur ou le syndicat, l'assureur est là.
Peut-être, Julie, avec tout ce qui est choc post-traumatique, puis il y en a énormément dans ces métiers d'urgence-là. Bon, j'ai lu sur ton site, puis on en jasait, tu fais des suivis à court terme. La première question qui m'est venue en tête, c'est... individuellement, moi, comme simple citoyenne sans choc post-traumatique, là, un suivi à court terme, moi, ça n'a pas été nécessaire pour moi. Il a fallu que j'aie cherché de l'aide supplémentaire pour mes petites bébites du quotidien. Ouais. Fait que pour quelqu'un qui a ce quotidien-là qui est rempli de trauma, en quoi ça aide, en fait, un suivi à court terme? Puis où c'est que tu les envoies après?
Bien, court terme, c'est souvent quand c'est un debriefing. Donc, le debriefing, c'est une méthode qu'on utilise encore dans les milieux d'urgence, qui a été bannie là, dans la population civile. Je ne partirai pas là-dessus un matin. Sauf qu'on va voir en 1, 2, 3, 4 séances avec la personne, juste à donner du sens à ce qu'elle a vécu. En fait, ils ne sont pas, à ce moment-là, en trouble de stress post-traumatique. Moi, j'appelle ça des scratchs dans le cerveau. Donc, chaque fois qu'il y a un événement potentiel traumatique, il y a une scratch sur le disque dur. Et à un moment donné, on a besoin d'avoir un sens qu'on donne à cet événement-là, ça, c'est ce qu'on appelle le debriefing, qui est la période très court terme. Si jamais ils ont besoin d'aide pour quelque chose qui est plus cristallisé, qui devient un trouble de stress post-traumatique, là, c'est là que les psychologues peuvent être utiles. Moi, j'ai une liste de psychologues qui sont spécialisés en trauma à qui je vais référer.
Tu rediriges, là.
Absolument. Donc, on les laisse pas tomber.
La différence, est-ce que tu fais encore des suivis avec le, je veux dire, le monde normal, où tu es vraiment maintenant 100% avec les...
J'en ai jamais fait, moi.
Ça a toujours été l'urgence.
Ans avec eux. Oui.
Mais?
Ben oui.
Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée directement avec ces métiers d'urgence-là? Parce qu'il faut que tu y penses, là.
Je suis une police ratée.
Arrête!
C'est ça, la vraie
histoire. T'es-tu sérieuse,
Julie? J'étais ici en enceinte de crime, moi.
Je suis une police ratée.
Hey, je suis super contente, j'adore ma job, là, que ça soit très clair. Mais à la base, je voulais être policière. Moi, depuis que je suis une gamine, ma mère vous dira la blague que j'ai dit police avant papa, maman. Donc, passionnée de la police depuis tout petite. Je courais avec mon petit vélo à trois roues après les interventions.
Quand j'ose avec des ex-militaires, je ne sais pas si c'est encore le cas, je sais qu'il y a des militaires qui nous écoutent, le 418-971-1021, envoyez-moi ça par texto, mais anciennement, quand tu avais besoin d'aide, quand tu étais militaire, à la base militaire de la Valcartier, il fallait que tu montes au deuxième
l'escalier
étage.
L'escalier de la honte.
Puis ils appelaient ça l'escalier de la honte. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais de plus en plus, il y a des gens qui ont arrêté d'appeler ça des escaliers de la honte puis qui ont vu ça comme un service d'aide. Puis c'est de plus en plus... Il n'y a plus de monde qui se font écœurer parce qu'ils vont demander de l'aide quand ils sont dans l'armée. Tu n'as pas de l'air d'être d'accord avec ça. mais quand les policiers te demandent de l'aide, puis en plus, tu peux aller avec eux sur le terrain, je trouve ça bien parce que ça montre aux autres policiers qu'il y a d'autres policiers qui font appel à des travailleurs sociaux pour leur travail. T'as-tu remarqué justement que c'est de moins en moins... négatif aux yeux des autres, faire appel à une travailleuse sociale?
Absolument, c'est moins négatif, sauf que souvent, ce que les gens vont faire, c'est comparer l'événement déclencheur comme étant, si c'est un décès d'enfant, c'est correct qu'ils partent en arrêt, mais si c'est une dame de 102 ans qui est décédée chez eux puis qui a fait l'annonce de décès, ça, c'est moins bon. Fait que des fois, ils comparent l'événement alors qu'il faut retenir le pack-sac du 600 à 850. Là. Fait que c'est peut-être la goutte de trop, la madame de 102 ans.
Est-ce que je me trompe que c'est même au-delà de ça? Parce que l'an passé, ça fait presque 2 ans, en fait, j'ai eu la chance de passer une journée avec 2 paramédics sur la rive sud de Québec. Deux incroyables paramédics, je veux les saluer, là, Stéphane puis Sylvain. Puis à un moment donné, on a jasé justement de certains de leurs traumas. Puis il y en a un qui me racontait que des fois, le trauma est simple comme tu fais un lien avec ta vie personnelle. Ouais. Par exemple, une vieille dame qui est décédée seule dans son appartement, si ça te fait penser, je sais pas moi, à ta grand-mère qui est décédée seule puis que ça a été un traumatisme plus jeune pour toi, bien, ça peut être assez pour caler le reste de ta journée off parce que ça vient de déranger ton mental puis t'es plus assez focus pour continuer, finalement, ta journée comme du monde pour aider les autres. Tu sais, des fois, ils disent, il faut que tu prennes soin de toi avant d'aider ton Absolument. Prochain, là. Et fait que des fois, j'imagine que ça peut être aussi banal que ça. Fait que j'ai de la misère à concevoir que ces gens-là comparent les traumatismes.
Il me reste l'ouvrage à faire avant ma retraite, c'est la bonne nouvelle, mais oui, il reste...
Un autre 28!
Reste, oui, je suis prête. Mais il reste cet enjeu-là, je pense, à changer. Mais t'as raison, Yann, que c'est moins... Tu sais, l'escalier de la honte, je l'ai entendu souvent. La parade des fous aussi, là, quand c'était le temps d'aller rencontrer le médecin. Je l'entends encore de temps en temps chez les militaires, mais on a moins tendance à s'auto-stigmatiser. Parce que c'est ça, hein, c'est de se mettre une étiquette dans le front puis de se traiter de fou puis de malade. C'est pas ça, aller consulter. T'es ton principal outil de travail, comme tu viens de dire, Audrey. Fait que même si t'as le meilleur équipement du monde, si toi, tu vas pas bien, c'est pas facile.
Ouais, j'avais déjà parlé avec des policiers de la ville de Québec. Là, je sais pas, dans les derniers mois, on dirait que c'est un peu plus tranquille au niveau des communications avec les médias, ce qui fait en sorte qu'on a moins accès à eux. Mais les policiers nous mentionnaient régulièrement que 80% des interventions au centre-ville de Québec, ça touchait la santé mentale et qu'eux n'étaient pas nécessairement formés comme vous l'êtes en santé mentale ou comme un psychologue ou un psychiatre pourrait l'être. Est-ce que tu vois d'un bon oeil qu'à un moment donné, on puisse jumeler des travailleurs sociaux avec des policiers lors de patrouilles au centre-ville de Québec?
Absolument. Ça se fait dans plusieurs services au Québec. C'est très intéressant, sauf qu'il ne faut pas penser non plus, je vais défendre l'ETS, faut pas penser non plus que c'est une panacée puis qu'on va tout régler avec ça. Tu sais, quelqu'un qui est en délire agité, puis là, je regarde Dany parce que tu en as certainement vu sur
parce
des interventions.
Parce que Dany est en délire agité.
Dany est en gros délire.
Dany Morissette, en pensant, notre ex-collaborateur là, qui est un ancien policier à la SQ.
Mais quand la personne n'a plus de contact avec la réalité, même si tu as le meilleur psychiatre au monde en avant de toi, je veux dire, quand on peut pas établir une communication, c'est sûr que c'est plus difficile. Il y avait un super 3 articles ce matin dans la presse où il parlait des contentions puis des difficultés. On peut pas faire de miracle non plus, mais c'est sûr que les appels en santé mentale, c'est plus que 80% selon les statistiques du ministère de la Sécurité
publique.
C'est
gros, là.
C'est incroyable. Et il y a une composante. C'est pas nécessairement que c'est la majeure, mais c'est ce qu'on va retrouver. Donc, on demande aux policiers avec 75 heures de cours en santé mentale de devenir des experts de la santé mentale. Je suis désolée, ça se passera pas, là.
Ta santé mentale, à toi, elle va comment? Parce que c'est ton métier d'aider les gens constamment, mais j'imagine qu'après 28 ans, puis tu me sembles super énergique, super pétillante, mais tu sais, des fois, derrière ça, à maison, tu te rends compte que peut-être que ça peut être difficile.
Ça va bien. Moi, j'ai de la supervision. Une chance que j'ai de la supervision. Oui, oui. Ouais, moi, ça me prend ça. J'ai la chance aussi de travailler avec le docteur Alain Brunet, qui a mis sur pied une thérapie sur le trauma, qui guérit le post-trauma en 6 séances. Donc, moi, la science, pour moi, c'est très aidant. Fait que d'aller lire là-dessus. Quand moi, j'ai commencé, quelqu'un qui était en post-trauma, il était déclassé. On le sortait de la police, on le sortait de l'ambulance parce qu'il n'y avait pas de possibilité de rémission. Maintenant, on voit des avancées spectaculaires. On voit des gens qui vont mieux. Moi, ça, je carbure à ça de voir mes... Je les appelle mes cocos, là. Je suis très possessive et très maternelle avec mes clients. Fait que quand mes cocos vont bien, on dirait que je suis très contente. Fait que c'est ce qu'on appelle de la satisfaction de compassion. C'est fort utile.
Puis comment ça, tu travailles plus avec l'homme que la femme? C'est-tu parce que dans ces métiers-là d'urgence, il y a moins de femmes de ce que tu observes ou c'est juste que toi, tu es vraiment redirigée vers l'homme?
Non, non, c'est que la culture, même chez les femmes dans les milieux d'urgence, il y a encore une culture à prédominance masculine. Fait que même si c'est des femmes, la demande d'aide est quand même difficile. Fait que c'est pas, on fait pas de lien avec t'es-tu né homme ou femme, on est plus dans une culture ambiante. Fait que c'est difficile. Mais il faut se rappeler que c'est eux les aidants d'habitude. Puis là, on leur demande d'être les aidés. C'est pas évident. Donc,
puis quand t'es en patrouille avec eux, qu'est-ce que tu fais exactement?
je suis partout. si je passe à l'ambulance, par exemple, bien, on va faire, mettons, l'exemple ici à Québec avec la CETAC, tu sais, je vais aller faire la tournée des centres hospitaliers, d'aller voir les équipes qui sont en rétention, à attendre leur vie, que les patients soient triés. Fait que je vais discuter avec les équipes, voir ouais. comment ça va. Fait que je les appelle le petit cheer-up, là. Donc, aller discuter comment ça va, après des gros appels aussi.
Fait que t'es dans le garage, des ambulances, à l'hôpital.
Les fesses assises, oui, absolument, dans le troc de superviseur.
Jaser à l'intérieur de l'ambulance.
Absolument.
OK.
C'est vraiment le fun.
Puis t'es-tu surchargé de demandes? Est-ce qu'il en manque des ressources en santé mentale dans ces domaines-là? Parce que c'est ce qu'on entend au Québec en général, là.
Il en manque. La particularité, puis c'est pas pour me vanter, mais la particularité, c'est de comprendre leur métier. Moi, j'appelle ça Ginette du programme d'aide. Là. La madame bien gentille qui veut les aider, mais qui pleure plus que Dany qui vient me conter son trauma. C'est pas, c'est pas bien inutile. Puis je suis pas plus fine que les autres. Moi, c'est parce que je fais du trauma. Fait que souvent, c'est d'avoir une connaissance de leur réalité, d'avoir une connaissance de leurs horreurs, de comment ils fonctionnent, de à quel point ils ont un humour louche. Tout ça,
j'imagine
je les aime.
Que... Mais est-ce que tu dis humour louche, est-ce que c'est un humour noir parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix de créer une distance avec tes événements?
C'est noir fluo. Oui, c'est, ouais, hein? Ouais, c'est très... Mais c'est drôle parce que, je veux dire... Quand on est juste entre nous, c'est correct. Évidemment, si on ne fait pas ça devant les familles...
Faudrait
etc.
pas que ça sorte
non.
en public!
Oh non! Non, il y a des gens qui perdraient leur job. Moi inclus. Donc, c'est ça. Mais c'est une façon de prendre une distance, mais c'est aussi une façon de créer du lien. Fait que moi, j'encourage au bout de l'humour au bon endroit avec les bonnes personnes. Honnêtement, c'est un facteur de protection incroyable. On en parlait tantôt, on a un petit humour particulièrement louche dans l'urgence.
Ouais. Quand on est travailleur social, est-ce qu'on doit régulièrement se former comme les psychologues, ouais. comme les psychiatres? C'est de la formation constante à ce qu'on me dit, là.
Oui.
C'est la même chose pour les travailleurs sociaux?
Même chose, on a des heures de formation continue à faire à chaque 2 ans. Nous, c'est la période de okay. ces 2 ans.
Puis qu'est-ce qui change?
Le trauma, c'est... On a compris tellement de choses. Moi, quand j'ai commencé, le trauma, c'était un trouble anxieux. Maintenant, c'est un trouble de stockage dans la mémoire. Donc, c'est vraiment d'être à la fine pointe des connaissances. Je disais science tantôt, là, pour moi, c'est vraiment important d'être connecté sur la science, sur les bonnes pratiques. Puis aussi... Je vais le dire comme ça, j'enseigne à l'université, je dis ça à mes étudiants, de ne pas être juste une madame gentille qui dit « ça n'a pas l'air facile ce que tu vis ». T'sais, pour moi, ça, ce n'est pas du travail social. Ouais. Là. Nicole, au bureau en gros, peut me dire ça. Donc, c'est d'aller plus loin, de creuser avec la personne, de donner du sens à ce que la personne nous dit aussi. Fait que oui, ça prend de la formation continue sur les bonnes pratiques, sur les interventions, comment on intervient. Là, je parle dans le trauma, mais c'est n'importe quel sujet, c'est ça aussi. Au niveau du développement de la personne aussi. Donc, je pense que c'est super important d'être à jour.
C'est une drôle de question, mais comment on intervient? Je sais que toute personne est différente, là, mais mettons, ouais. Y a-t-il des outils particuliers? Y a-t-il des phrases magiques?
Surtout pas. Ben moi, je travaille avec une approche qui s'appelle l'approche narrative. Donc, c'est beaucoup avec les mots que les gens vont employer. Comment tu me décris ta situation? Donc, si tu me dis « ça a vraiment été de la merde pour moi, cet appel-là », ben je vais repartir de « tu viens de me dire ça a été de la merde ». Qu'est-ce que tu veux dire par « ça a été de la merde pour toi, cet appel-là » Donc, on va creuser ensemble les mots que tu utilises pour aller donner un sens à ce que tu viens de m'exprimer. Ce que j'ai fait dans mes débuts, c'était des reflets. Tu sais, j'étais bébé TS un moment donné. Tu sais, de faire des reflets à un policier qui m'a dit qu'il était en tabarre. Compléter la phrase ici. Puis moi, je fais un beau reflet du genre « Ah oui, tu es en colère. » Et ben, est-ce que j'ai compris la différence entre colère et tab? Donc,
oh, ouais.
Ouais, ça, c'est minimiser l'émotion. On ne fait pas ça. Julie, 21 ans, on ne fait pas ça. Donc, on apprend de nos erreurs, heureusement. Donc, de travailler avec... Puis c'est pour ça que dans mon domaine, c'est important de connaître le langage. Parce que si Dany me dit qu'il y a eu un 11-10 hier, puis que le 11-10, c'était vraiment tough...
C'est quoi un
11-10? Meurtre premier degré, tu sais. Okay. Fait que moi, je comprends le code que Dany vient de me donner. On est capable de créer un lien rapidement. Dany va faire « Ah, elle connaît ça, finalement, à mon milieu. » Tu sais, fait que c'est pas stagé, c'est plus de dire on a une langue commune.
Il y a une confiance
parler.
Qui Absolument. Se crée. Puis, y a-tu des outils? Tu sais, je pense à l'entourage, là.
Ouais.
Tu sais, mettons, moi puis Yann, là, dans un monde très, très lointain, on serait ensemble, là, puis il est policier, tu comprends, ou il est ambulancier, ou peu importe, puis il vit quelque chose.
Son non-verbal a de la misère.
Oui, c'est dans un monde très ouais. parallèle. Okay.
T'aurais pu prendre un autre exemple.
Ben non, OK, moi puis Dany, tu sais, en plus, ça marche, il était policier pour vrai. Moi puis Dany, on est ensemble, puis Dany revient à la maison, puis il est choc post-traumatique de plein d'affaires dans sa carrière, puis ça a des répercussions sur notre quotidien à nous. Est-ce que tu vas jouer là-dessus aussi, l'entourage, la personne qui est choquée?
Pas plus tard qu'un matin, j'ai eu une conjointe d'un de mes clients qui m'a appelé justement pour ça. Donc, on va essayer de donner des trucs à la famille, mais c'est pas à la famille à devenir le thérapeute. Puis, tu sais, je voudrais pas que les gens assument ça. Puis, c'est pas de raconter l'événement graphique. Dany, là, ça y servira à rien de raconter à sa conjointe comment ça saignait, puis etc. Il va juste briser sa conjointe. Il faut pas, moi, j'appelle ça brasser de la soupe traumatique. Il va plus avoir besoin, peut-être, qu'est-ce que t'as besoin, Dany? Tu sais, Donc, comme conjointe, as-tu besoin de temps? As-tu besoin d'espace? As-tu besoin de te changer les idées? Donc, de revenir à la base de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Fait que l'entourage, pour moi, là, c'est de leur donner les outils, les ressources, d'expliquer qu'il y en a des ressources. Je parle de la vigile tantôt. Il y a plein de ressources qui sont là, mais il faut les connaître. Fait que nous, on devient des facilitateurs aussi à ce moment-là pour les familles, les proches.
J'ai Frank qui nous écrit, j'ai changé son nom. Salut, je veux juste dire à Julie un gros merci pour ton service comme intervenante. Moi, je suis un ex-policier militaire. Je suis sorti post-traumatique et avec trouble anxieux. J'ai eu le diagnostic en 2016. Ça m'est arrivé dans l'armée parce que j'ai trouvé un ami proche qui s'est malheureusement enlevé la vie.
Mon Dieu.
C'est moi qui l'ai trouvé. Je me suis fait traiter de tous les noms possibles et j'ai pas eu beaucoup d'aide à cette époque-là. C'est suite à des tentatives où j'ai tenté de mettre fin à mes jours que j'ai commencé à avoir de l'aide aux civils. Bon, Frank a dit merci beaucoup pour ton service, là. Fait que je trouve ça intéressant comme commentaire. Mais oui, j'en ai souvent entendu parler de ça. Je parlais avec un gars en entrevue il y a quelques années qui est devenu une bonne connaissance avec qui je fais de la plongée sous-marine maintenant. Lui, quand il est sorti de l'armée canadienne, il finissait une mission. Il était avec ses enfants aux galeries de la capitale, puis il cherchait les snipers, ces galeries en haut. Il rentrait aux galeries de la capitale avec ses enfants, là, mettons par le Best Buy.
Oh,
là.
Mon Dieu.
Puis quand il est arrivé à la hauteur de l'ancienne patinoire, ben, il y a comme d'autres paliers. Ouais. Là, il cherchait des snipers possibles en haut. Puis il s'est rendu compte que là, c'était, même s'il avait sorti de l'armée, c'était le temps de demander de l'aide parce que sans quoi, il s'en serait probablement jamais remis.
Mais c'est un très bon exemple d'hypervigilance. Puis juste pour vous donner une anecdote, tantôt, Daniel et moi, on était assis en bas à prendre un café, puis il y a un gars qui est passé qui avait des caractéristiques particulières qui a fait que les deux, on s'est détournés. Daniel avec subtilité, moi avec zéro subtilité. Et on voit que l'hypervigilance, ça fait partie des métiers d'urgence. Fait qu'à la base...
Mais fallait bien que je passe, fallait que je vienne travailler.
Ben oui, mais c'était... C'était correct. On a fait semblant qu'on t'avait pas
connu,
Yann. Un
méchant fucké, hein?
Mais c'est juste pour montrer qu'il y a une déformation qui est une hypervigilance conditionnée. Mais il y a aussi une hypervigilance, comme tu viens de nous décrire avec ce militaire-là, qui va faire en sorte que son fonctionnement social, donc au quotidien, il va épuiser énormément d'énergie à toujours être à la recherche de sons, d'images. Et si je peux juste donner un message à la population, là, ça va me faire plaisir, j'utilise votre tribune un matin. Si vous connaissez les intervenants d'urgence, prière de ne pas leur demander leur pire appel. Vous allez les replonger dans le trauma et leur faire vivre des émotions fort désagréables. Je ne suis pas capable de cette question-là. Je me désorganise à chaque fois. On les remet dans le trauma. Et là, on réactive des mécanismes sensoriels d'odeur, de son, d'image que les gens n'ont pas envie de revivre. Demandez-leur l'appel où ils se sont sentis le plus utile, le plus drôle, peu importe. Mais s'il vous plaît, arrêtez cette question-là.
Hey, mais c'est bon que tu dises ça, Julie, parce que honnêtement, puis je pense qu'on peut plaider coupable en motadine des médias, c'est une question qu'on pose facilement non, parce qu'on est curieux. T'sais, on essaie, je pense, de saisir à quel point le métier peut être difficile, Puis on est à la recherche d'histoire parce qu'on ne connaît pas justement ce domaine-là. Fait que
mais on les replonge. Puis c'est ça, à chaque fois que ça me choque, parce qu'on appelle ça de la trauma porn en anglais. Donc, on va aller se nourrir d'images, de sons, d'histoires des gens. Je me la fais poser souvent aussi. Je ne vais pas répondre à cette question-là, un, parce que j'ai un secret professionnel, mais deux aussi, parce que j'ai peut-être pas envie de revivre les émotions qui vont avec X, Y, Z d'intervention.
Ouais.
Donc, c'est la même chose au niveau de nos intervenants. C'est
on
une
le réalise
mauvaise
pas.
Pratique.
On le réalise pas souvent. En parlant avec Maître Bellemare, moi, j'ai appris... Bellemare a encore des clients qui ont été victimes en 1984 de Denis Lortie à l'Assemblée nationale.
Oh, Seigneur.
Oh.
Fait qu'à chaque fois que, mettons, en 94, c'était les 10 ans, Denis Lortie. Mettons, en 2004, c'était les 20 ans. Ben, à chaque fois, Bellemare avait des appels comme quoi ses clients allaient vraiment pas bien.
Fait
que ça les replongeait parce qu'on en parlait. Mais c'est correct d'en parler, mais on ne connaît pas toujours les impacts que ça peut avoir.
Et puis on réalise
chez
pas,
les
en fait.
Victimes. Ben non.
Parce que c'est notre genre là, de chercher ce genre d'histoire-là, pas pour faire une histoire, mais pour comprendre puis essayer de je vais dire, tu sais, je vais prendre ton exemple, Yann, mais écoute, moi, je plaide coupable. Ce serait mon genre de vouloir recevoir quelqu'un qui a survécu pour essayer de faire vivre l'histoire aux gens. C'est arrivé pour vrai. Voici ce qui est arrivé. Regardez les impacts sans penser que la personne peut revivre ça intérieurement.
Mais qu'elle parle des impacts, moi, tu sais, des témoignages de gens qui sont allés chercher de l'aide, des témoignages de gens qui ont passé par-dessus des épreuves en résilience, c'est magnifique. C'est les détails sensoriels qui sont pas utiles. Et c'est cette partie-là qu'on appelle trauma porn. Et c'est là qu'à chaque fois, on réactive. Vous vous posez une question comme ça, la personne, l'odeur va lui revenir, les sons vont lui revenir, l'image va lui revenir, le goût va y revenir, la chanson qui passe à la radio dans son char pendant qu'elle y allait.
Mmh.
Tout ça, on la remet dans sa situation et on la replonge directement dans l'émotion vive du moment. C'est tellement pas utile.
J'ai le goût de vous dire, si vous avez une curiosité morbide, là, lisez le livre « Cœur policier ». Je pense qu'on est rendu à trois tomes de ce livre-là. Oui. Et moi, je suis une grande fan. Là, de... Puis le nom de l'ancienne journaliste qui a écrit m'échappe. Là. Mais,
Ça semble son nom de famille, c'est Fallu.
Fallu, Anne-Marie Fallu, ça se peut-tu?
Voilà, un nom composé, oui.
Je vais... Cœur policier, on va le taper, ça va être plus facile. Cœur policier, c'est 30 histoires de policiers, soit à la retraite ou encore actifs. On les nomme quand ils sont à la retraite, on ne les nomme pas quand ils sont encore
Marie-André Fallu.
Marie-André Fallu, merci. Puis ça en est des histoires, justement, très, très morbides, marquantes. Puis c'est super intéressant pour le commun des mortels, je vais le dire comme ça. Puis ça va peut-être nous éviter, effectivement, de poser ces questions-là à notre entourage.
Okay. Si je ne peux répéter que ça, je vais être heureuse.
Pour nos policiers, ex-policiers, ambulanciers, ex-ambulanciers, militaires, ex-militaires, on peut s'adresser à toi directement sur ton site Internet?
Oui, ou sinon la Vigile, 1-888-315-0007. C'est comme James Bond avec un zéro de plus. 24-7-365 par année.
Ça a été un plaisir de jaser avec toi, Julie. T'es franchement intéressante, Julie Nadeau. Puis au plaisir de te recevoir dans quelques semaines, quelques mois.
Game d'envoyer. Écoute, moi, je vais prendre ton numéro de téléphone. Là.
Puis t'es bonne en plus.
Merci.
11h10, on s'arrête.
Boulevard 102.1.
Bon, Reg, es-tu encore suspendu ou bien l'administration
là,
est revenue sur sa décision?
Je veux juste dire que je regarde mes médias sociaux en ce moment.
Oui.
Et j'ose espérer que les gens qui commentent ne sont pas des auditeurs. Et je m'explique. Si le moindrement vous êtes auditeur, vous comprenez que c'est une joke. Je peux pas croire qu'il faut l'expliquer, là. C'est le pire montage, c'est une blague.
Ouais.
Les gens pensent vraiment que Reg est suspendu. Là, c'est rendu qu'il y a des débats de liberté d'expression.
Exact.
Qu'il a le droit de dire qu'il aime pas le sirop d'érable. Et là,
il a dit que le sirop d'érable était surestimé. Moi, je suis parfaitement à l'aise avec ce 20 heures de suspension. Là.
Moi aussi, je suis à l'aise avec la suspension parce que ce n'est pas surestimé. C'est un joyau qu'on a au Québec.
Exact.
Et visiblement, Reg, c'est pas encore parfaitement imprégné du Québec.
Mais si à 10 heures, il est suspendu pour 20 heures, ça fait en sorte que demain, à 6 heures, il est correct pour faire son show.
Ben oui, c'était ça la
blague. Mais les gens ne l'ont pas compris.
Non,
Puis je te ramène à Christian Page qui a il m'avait parlé de sondages à l'époque aux États-Unis. C'était pas des sondages, c'était des études qui avaient été faites sur la crédulité des gens.
Okay.
Puis il y a toujours un certain pourcentage, je pense que c'est 10% de la population qui va croire à tout ce qu'il va lire sans nécessairement se poser de questions par la suite.
Ça me fait capoter.
Puis là, ben, on voit ça sur nos réseaux sociaux.
T'sais, est à 73 commentaires de gens qui sont comme...
Moi qui en rajoute en disant que je suis parfaitement à l'aise avec la décision de l'administration.
T'as dit, moi, je donnerais 25 ans de prison à chaque fois qu'il parle de Musique Plus.
Puis même que je donnerais 25 ans de prison à chaque fois qu'il parle de Musique Plus. Puis, ouais, c'est ça. Ben, y a des gens qui ont vu que c'était une blague que je faisais. Mais oui, tu vas tout le temps avoir un certain pourcentage de la population qui va croire exactement ce que tu dis.
Hey, y a des gens qui vont jusqu'à parler de trafic d'armes. On est rendu où, là? Ouais. C'est un débat de sirop d'érable.
Exact! Non, ça va loin. Les affaires se passent sur les réseaux sociaux de Boulevard.
Hey, c'est fascinant.
Puis il y a toi avec l'extrait avec le Fury que tu as eu dans le podcast Sextape.
Oui, ça c'est ce soir en passant, ce pis, podcast-là.
Je peux-tu te poser des questions par rapport à ça? Parce que moi, je suis un fan de Sextape. Là. J'aime du tien, du moins.
OK. J'étais comme grosse révélation. Oh, ouais.
Podcast audio qui s'appelle Sextape.
Et
là, ce soir, l'histoire avec le Fury, là, c'est que est-ce qu'il avec son déguisement de Fury, de chien, est-ce qu'il va jusqu'au bout? Là?
Oui. Ils ont des relations sexuelles. Il y a plusieurs affaires. Il y a du frottis-frottant en costume dans certains événements, certaines conventions, certains parties privées.
Ils se frottent l'un sur l'autre en costume?
Ah oui. Ça fait partie un peu du côté animal, du côté qui se donne. Mais je t'invite, parce que je sens que ton sac à préjugés est aussi rempli que le mien était.
Ah, probablement qu'il va l'être tout autant après l'écoute. Mais c'est ça, je vais écouter ça ce soir.
Je t'invite vraiment, pour vrai, à l'écouter. C'est à 19h ce soir. Puis tu vas voir que, surtout si tu vas sur YouTube, c'est un gars bien normal, Colia. Je veux dire, comme toi puis moi. Puis il y a une job... plus que normal, t'as même pas idée.
Fais quoi dans la vie?
Je peux pas te le dire. Non, c'est vrai, je peux pas te le dire. Mais il y a une
fois. Je peux quand j'avais 15 ans, je demandais à une fille: hey, toi, t'as-tu un chum? Oh, oui, j'ai un chum, OK. C'est quoi son nom? Il habite à Montréal, tu le connais pas, je peux pas te le dire, j'ai pas le droit.
Non, mais c'est parce qu'en fait, on limite la façon de faire le lien entre son fursona, son personnage, ouais, et lui. C'est vraiment juste pour ça.
Mais il enlève pas son costume, puis il sort le petit bout, puis merci, ça se
passe. Ben oui, ça peut se passer comme ça aussi, en gardant seulement la tête. Il peut garder juste la tête, puis les gants. Il peut. Je sais, je comprends. Écoute, Yann, j'ai commencé ce podcast-là dans mon intro du podcast que vous allez entendre ce soir. La première chose que j'ai dit, c'est: je suis pleine de préjugés, je suis pleine de rires en canne réservés par en arrière, j'ai plein de questions, je suis stupide par rapport à ce sujet-là.
Il est déguisé en mascotte, là.
Oui, mais c'est...
Tu me dis
oui,
qu'il y a des relations sexuelles en mascotte. Des fois, là, je fais
mais
l'amour...
Mais c'est pas une mascotte, par exemple.
Des fois, je fais l'amour, là, puis j'ai ouais, chaud, là. Imagine-toi ouais, avec une tête de
il
mascotte
l'aborde
sur la tête.
Il l'aborde, ça. Il aborde, si tu veux, je pense même que tu as un extrait qui n'est pas trop loin. Il aborde tout ce qui est première convention, le volet un peu sexuel. Tu vas l'entendre, il dit qu'il a chaud assez facilement, puis c'est pas toujours agréable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Peut-être nous raconter la première fois que tu t'es adonné à des pratiques sexuelles dans ouais, ce genre de convention. Parce que j'imagine que la première fois que tu y vas, c'est peut-être pas ton but premier. Oui.
Je me rappelle pas, c'est quoi que j'ai fait.
Il y en a eu trop, hein. C'est...
Non, mais c'est comme max sexuel, je me rappelle pas. Mais souvent, c'est comme c'est du play, là. Tu sais, c'est des organes génitaux, mais.
Mais c'est tellement naturel que ça t'a pas marqué. Tu sais, des fois, on dit notre première fois, c'est bien marquant, j'imagine.
Non,
ouais, que.
Ben, je te dirais que les premières fois en costume, ça, c'est sûr que ça, c'est sûr, c'est un peu marquant, c'est le fun. Mais tu te rends compte tout de suite que t'as chaud là-dedans, puis tu sais, c'est pas tant plaisant, là.
Ouais.
Mais c'est plus... moi, ce qui m'a marqué, c'est juste de le mettre, puis de... Le monde capote, là. Tu te vois, puis tu dis: « Ah, oh, t'es tellement beau, ton saut, t'es tellement okay, beau. »
D'être
c'est
remarqué,
ça ouais,
d'être...
Ça ben, ça va que le chat, là, tu sais, j'aime ça me pavanerie, là. Fait ouais, que,
il y a une fierté par rapport à ton fierté, personnage, puis ça
ben,
te représente.
Tu le crées,
oui,
puis là, tu
ça,
le portes.
Exact.
Il y a pas plus... Okay. Fierté que ça, c'est cool. Là.
Mais là, toi, tu l'as vu en gars, là?
Ben oui.
Y a-tu,
moi, c'est un ami de cégep.
C'est-tu le dernier à avoir pigé dans son sac à face? Hein?
C'est un beau gars.
OK. Parce que là, tu vois que lui, ce qui trippe, c'est de se faire dire qu'il est beau avec son truc de furie.
Oui, non, mais
tête,
attends, là, c'est ça. Il te manque beaucoup de contexte. Là, hey, ton sac, il est gros, dans le fond, hein, ton sac à jugement.
Je suis rempli de jugement.
À la base, OK, là, sans même parler de sexualité. Ce qu'il nous expliquait, c'est que le monde des furries, cette communauté-là, à la base, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. C'est les gens qui vont triper. T'as des artisans qui vont faire, oui, les costumes et des accessoires. Bon, il y a des jouets sexuels et tout, évidemment, mais des peintures, c'est de l'art. Fait que tu crées ton personnage, ton fursona, qui appelle, qui va te suivre toute ta vie, qui est comme ta deuxième identité. Puis c'est que... Et ça vaut 10 000 piastres, le costume, Yann. Là. C'est pas une mascotte à 500 piastres. C'est pas cartoonesque là, comme costume. C'est vraiment délicat. Là. Puis on le voit, là, le costume, là, dans les trucs que vous avez sur les réseaux sociaux, puisque vous allez retrouver sur YouTube ce soir. Mais c'est le côté art qui fascine avant tout. Puis tu sais, des conventions où tout le monde est invité, okay, puis c'est bien normal.
Es-tu réservé comme aux gogas, là? Ou...
Non. Il y a des filles aussi, là. Par exemple, il nous a dit que la place de la femme était peut-être un peu moindre que celle de l'homme en partant, mais elle existe et elle est de plus en plus okay, grandissante. Puis Mademoiselle V, qui est dans le podcast, Valérie, nous expliquait qu'elle a fait des conférences là, à Québec, ici et là, dans les maisons des jeunes. Et il y a une maison des jeunes où elle a donné une conférence récemment que toutes les jeunes avaient des queues puis des oreilles. Parce que... Non, mais parce qu'il y a un intérêt pour ce... Yannick.
OK, on va écouter
okay,
ça en
tu soi, l'écoutes, puis tu m'en reparles demain.
Y est-tu aux marmottes, aux écureuils ou ben aux moufettes, le gars?
Ouais. Arrête. C'est un choc. Hey, Yannick.
Ce soir, 19h.
Oui.
À ne pas manquer.
Absolument.
Le podcast Sextape avec Audrey Pinchot, Mademoiselle V et un furie ou une furie?
Un furie.
Ou un homme en furie?
Un homme en furie,
qui
peut-être,
sait,
de temps en temps.
Qui sait? On se laisse là-dessus. Vincent Vallière, l'avenir est plus proche qu'avant. Toi, je te dis salut à tantôt, 14h avec Denis et Véro. Pascal CV s'en vient. On lâche pas. 418-971-1021. 418-971-1021. La vie, c'est tout à fait correct.
À demain.
À demain.